Franck Dixmier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements obligataires chez Allianz GI. On va parler avec vous, bien sûr, de cette partie-là importante pour les investisseurs. On ne sait pas trop où on va sur ces taux. On a vu les dernières décisions de la Banque Centrale Européenne. On a globalement des taux négatifs maintenant dans le monde avec des montants importants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché déjà, pour commencer ?
Bon, le constat d'abord, il est absolument évident, c'est que les niveaux de taux actuels sur les emprunts d'État, disons au cœur de l'Europe, quand on considère l'Allemagne par exemple, sont de plus en plus déconnectés des fondamentaux économiques. Alors ce n'est pas une nouveauté, on vit dans cet univers où finalement les prix obligataires sont excessivement chers, mais ils sont chers pour de bonnes raisons. Alors il ne faut pas chercher ces raisons d'un point de vue fondamental, parce que si vous revenez de mars, quand vous regardez les niveaux de taux actuels, ça vous décrit un environnement de déflation et de dépression. Donc ce n'est pas tout à fait notre scénario. Au contraire, on est plutôt sur une croissance qui s'affermit en zone euro. Non, les facteurs ils sont allés chercher du côté technique, avec ces achats massifs de la Banque Centrale Européenne, qui provoquent une distorsion totale du marché.
Alors les investisseurs, en même temps, depuis des mois, ils se posent des questions sur cette stratégie des banques centrales. Il y a la Réserve fédérale américaine qui a encore quelques doutes. Banque centrale en Europe, c'est vrai, elle est encore dans une autre phase. Mais le fait qu'il y ait des phases différentes, justement, ça peut créer des risques.
Oui, certainement. Et on a vraiment la conviction que réellement à partir du mois de juin ou de juillet, quand la Fed montre assez tôt, c'est une quasi-certitude, en tout cas on en a la forte conviction, on va réellement rentrer dans une divergence des politiques monétaires. La Fed a de très bons arguments pour monter ses taux. Quand on regarde un peu d'un point de vue historique, la fonction d'action de la Banque Centrale Américaine était très dépendante des conditions internes sur son économie. Il était très rare de l'avoir justifié son action par des considérations externes. C'est vrai qu'on a eu une accumulation des risques en début d'année qui ont quelque part provoqué ce statu quo sur les taux. Maintenant, ces risques se sont atténués, ils sont toujours présents, ils se sont atténués. On constate qu'on a quelques tensions sur les salaires, on est dans une situation de plein emploi aux États-Unis, donc la Fed va monter ses taux. La Banque Centrale Européenne, qui se réunissait encore aujourd'hui, nous envoie un message très clair, que les taux vont rester très bas pour sans doute un peu plus longtemps que le marché ne l'anticipe. Donc là, on a un environnement de divergence réelle des politiques monétaires. Donc une pression à la baisse pour les marchés de taux en zone euro, mais attention, avec des forces haussières tout de même sur notre marché directeur qui reste le marché américain.
Oui, parce que là, on est obligé de regarder un peu l'histoire. Les boursiers s'en souviennent. Alors à l'époque, on ne parlait pas de la Banque Centrale Européenne, on parlait de la BUBA, de la Bundesbank. Mais c'est elle qui, effectivement, et il y avait eu cette divergence entre la Bundesbank et donc la Réserve fédérale, et ça avait créé de fortes tensions sur les marchés.
Oui, effectivement. Alors, l'enjeu aussi pour les banques centrales, et quelque part c'est un objectif implicite dans leur action, c'est la stabilité financière. Elles ont toutes un objectif commun qui est la stabilité des prix. Ça, c'est vraiment le dénominateur commun. Pour la Fed, il y a le plein emploi, mais pour toutes aussi, on sent que la stabilité financière, c'est un objectif en tant que tel. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il ne faudrait pas non plus que les marchés, quelque part, influe trop sur les banques centrales, qui perdraient de fait leur crédibilité. Donc, le challenge pour les banques centrales, c'est de conserver leur crédibilité, d'adopter une perspective réellement stratégique dans leur action. Mais c'est exactement ce qui va se passer avec l'action de la Fed à venir.
Oui, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui que les investisseurs lisent tranquillement, disant qu'il n'y a plus d'anticipation finalement ce que fait la Banque Centrale Européenne. Il n'y a plus cet avantage des banquiers centraux face au marché. Là, les marchés ont à peu près une lisibilité de ce qui va se passer, et non, alors que la Banque Centrale devrait avoir la main, on a l'impression qu'elles n'ont plus la main.
Moi, je serais prudent quand même avec cette affirmation. Il me semble quand même que la Banque Centrale Européenne a prouvé sur la période récente cette capacité à toujours surprendre les marchés. Donc il y a énormément, disons, d'ingénierie, de créativité dans les actions de la Banque Centrale Européenne. Et il faut avouer que le marché anticipe aujourd'hui encore, malgré tout ce qui a pu être fait, encore plus de la BCE. Donc là, on peut mesurer tout de même que son message a été bien compris. Et pourquoi je dis ça? Regardez le taux à 2 ans allemand, il est à moins 0,5, donc moins 50 BP, quand le taux de dépôt négatif de la Banque Centrale Européenne est à moins 40 BP. Donc ça prouve que les marchés anticipent encore plus à venir.
Justement, là, on rentre dans une période qui est compliquée, parce que période, historiquement, on n'a jamais vécu ça. Cette période de taux négatif, vous venez d'en citer un, il y en a plusieurs échéances en France, en Allemagne, dans d'autres pays. Vous parliez d'aspects techniques en introduction. On ne sait pas trop où on va quand on en arrive là. Ça fait quand même peser un risque supplémentaire parce que on n'a pas de visibilité sur où ça va s'arrêter.
Oui, alors il y a à peu près, quand on regarde les global bonds, l'univers obligataire mondial, global, il y a 8 trillions quand même d'encours en taux négatif, 8 000 milliards de dollars. Donc c'est absolument considérable. Le taux négatif, c'est un moyen pour la banque centrale d'influer sur le change. Alors, ce n'est pas franchement politiquement correct. Hein. On a vu que le G20 ou le G7 quand même essaient de fixer des limites à l'utilisation de ce type d'instrument. Avec aussi, enfin, l'observation absolument évidente, c'est que si tout le monde met en œuvre la même type de stratégie, ben c'est vraiment un jeu à somme nulle et qui en plus impacte fortement le secteur bancaire. Donc, d'utilisation limitée, mais ça reste une option. C'est une option qui a extrêmement bien marché hein, pour déprécier l'euro face à toute devise, et ça a été important pour injecter un peu de croissance, mais aussi pour avoir un petit peu d'inflation importée. Dans une zone qui connaît quand même des pressions désinflationnistes assez importantes.
Quand on regarde toujours un petit peu l'histoire sur les marchés, on s'aperçoit que quand la Réserve fédérale a monté ses taux, il n'y a pas eu forcément un effet sur le dollar ensuite et que le dollar a pu se déprécier. Donc on a toujours aussi ces risques un petit peu derrière de, non pas guerre d'échange, mais en tout cas de variations monétaires importantes.
Oui, je pense que tout ça, c'est une question d'anticipation. Hein, et quelque part, de forward guidance, vous savez, cette capacité de la Banque centrale américaine à piloter les anticipations des investisseurs. Alors, cette forward guidance, elle était quand même assez mise à mal, parce que le marché ne croit pas aux hausses des taux. Il est totalement agnostique, pourtant, elles vont arriver. Donc, il va y avoir une phase de réappréciation des anticipations, donc sans doute des pressions à venir sur les parties courtes et intermédiaires de la courbe des taux aux États-Unis. Avec sans doute à la clé une performance du dollar contre toute devise, mais une fois que ces anticipations seront bien intégrées dans le marché, effectivement, là, le dollar pourra évoluer d'une manière beaucoup plus, je dirais, incertaine, moins prévisible.
Le mot de la fin pour les investisseurs, justement, dans ce contexte de marché obligataire, est-ce qu'il y a des stratégies obligataires qui peuvent être gagnantes et quelles sont un peu les recommandations?
Oui. Alors, d'abord, on déconseillerait de prendre des paris directionnels. Aujourd'hui, personne ne sait, hein, grosso modo, où peuvent aller les taux. Donc attention à ça. D'un point de vue gestion un peu technique, on crée des portefeuilles extrêmement convexes avec des stratégies optionnelles qui nous permettent de bénéficier à la fois de la hausse et de la baisse des taux. Mais c'est un prix, c'est le prix de l'option à payer. Sur les sous-classes d'actifs obligataires, il y a encore de la valeur sur le crédit notamment au rendement. Vous pouvez capter du 3, du 3,5% de rendement. Donc dans un univers de taux nul, c'est toujours bon à prendre. Et pour des qualités de crédit qui sont tout à fait correctes. Et puis il y a un marché, alors là, qui n'est pas trop un marché de particulier, mais plus institutionnel, qui est le marché des obligations indexées inflation, qui a énormément souffert de cette phase de désinflation qu'on a pu observer, avec la chute des prix de l'énergie, notamment. Et quand vous regardez les points morts d'inflation, donc l'inflation à partir de laquelle ce type d'instrument devient intéressant, ils sont extrêmement bas. Donc là, il y a véritablement une opportunité historique à se positionner sur cette classe d'actifs.
Merci Franck Dixmier.
Merci.